frère Marie Faustien, né en 1876, mort au front en 1915. Sur le bulletin des frères du Sacré-Cœur quant à leur défunt de l'année 1915. Frère Marie Faustien appartenait à une famille de cultivateurs aisés, où la foi s'était conservée vive et profonde. Elle comptait 5 enfants, 3 garçons et 2 filles. Léopold, le plus jeune des garçons, perdit sa mère lorsqu'il était encore tout petit. Le père, que l'on surnommait le juste et le saint de la vallée, éleva ses enfants dans l'amour du travail et la crainte de Dieu. C'est dans cette atmosphère de travail et de vertu que grandit l'enfant. Dès que son âge le permit, on l'envoya en compagnie de ses frères et en qualité de demi-pensionnaire à l'institution Saint-Stanislas de Broquiers, dirigée alors par les frères du Sacré-Cœur et qui jouissait d'une réputation aussi bonne que méritée. Les 3 enfants se montrèrent des élèves modèles d'application et surtout de piété, nous écrit le bon frère Adelphe, placé alors à la tête de l'établissement. Il ajoute, « La 3e année, Léopold, resté seul en pension, me fit part de son projet d'entrer dans l'institut. » Le père, mis au courant, loin de s'opposer à l'appel de Dieu, me versa la pension du noviciat, et j'allai moi-même conduire l'enfant à Chirac. Là, comme plus tard à Paradis, il se montra travailleur, docile et presque trop pieux. Préparé par de solides études à ses fonctions d'éducateur, il débuta à Égletton comme maître de classe. En peu de temps, il s'était acquis l'estime et l'affection de ses élèves, qui le considéraient à bon droit comme un excellent maître et un saint religieux. Au moment du service militaire, incorporé à Grenoble, le brave jeune homme écrivit souvent à son ancien maître, et toujours il manifestait son vif désir, son grand espoir de redevenir disciple du Sacré-Cœur dès que son service serait terminé. « Aidez-moi de vos prières et de votre influence, » écrivait-il la dernière année de sa présence sous les drapeaux en 1900. « Je vous supplie avec larmes d'insister afin que je puisse reprendre ma place dans la phalange bénie où je désire servir Dieu jusqu'à mon dernier soupir. » « Je n'eus pas besoin d'insister, » ajoute le bon frère Adelphe. « Ma demande fut favorablement accueillie à la condition de le prendre avec moi à Messac. Je n'hésitai pas un instant et n'eus pas à m'en repentir. Pendant 3 ans, nous jouîmes d'une bien douce tranquillité et jamais un nuage n'assombrit notre ciel. Les Messacois appelaient Léopold le saint jeune homme et cette appellation le caractérisait aussi bien que celle de saint de la vallée caractérisait le chef de la famille. Les gens ne se trompaient pas. La persécution de 1903 vint fermer ce paradis terrestre. Les bons frères Adelphe et Aventin, trop âgés pour songer à s'exiler, continuèrent à faire le bien autour d'eux comme sécularisés. Quant à Léopold, il passa avec beaucoup d'autres dans l'hospitalière Espagne et fut d'abord placé à Saragosse et de là à Saint-Sébastien, puis à Huesca. Il prononça ses vœux perpétuels en exil en 1904. Il trouva dans cette dernière localité un travail très pénible et des élèves plus accessibles à un commandement bref et sec qu'à des termes sensibles et émus. C'était pour la plupart des enfants de 15 ou 16 ans, préparant leur baccalauréat et qu'il fallait dominer pour en jouir. Selon l'expression un peu pittoresque d'un professeur, il eût mieux valu les prendre d'abord par la bourre, puis par le cœur. Telle n'était pas la manière du bon frère Marie Faustien. Il ne parvenait pas à être sévère, de sorte que faisant merveille avec des enfants tranquilles, simples, soumis de la campagne, il dominait plus difficilement les grands vilains, espiègles, remueurs, bavards, amateurs de bruit et de rires bruyants. En septembre 1907, il prit du service à l'école libre de Lubersac en Corrèze. Il y resta jusqu'en novembre 1911, puis il passa à l'école libre de Marvejols. Dans ces postes, il fut, comme partout, l'homme du dévouement et de la ponctualité à tous ses devoirs. Fidèle à tous ses services religieux, il puisait en eux la force d'accomplir sans défaillance la tâche quotidienne que nous savons bien rude et bien pénible par certains côtés. Ajoutons que même après la dispersion des congrégations, il ne négligea rien pour cultiver des vocations religieuses et qu'il eut le bonheur de voir plusieurs de ses élèves quitter leur pays pour répondre à l'appel de Dieu. Qui d'entre nous ne remarquerait en passant cet exemple de zèle et ne voudrait s'efforcer de l'imiter ? La fleur ne disparaît point sans laisser sa semence. Qui de nous ne voudrait se survivre par des continuations de ses œuvres ? Grâce à son esprit cultivé, à son savoir-faire, à son heureux caractère et, par-dessus tout, aux vertus qu'on remarquait en lui, le succès couronna ses efforts et il acquit rapidement à Marvejols, avec la réputation de bon maître, l'estime et la confiance des familles des élèves. Sa mort sur le champ de bataille produisit dans la ville où il faisait d'inoubliables souvenirs une impression profonde et excita d'universels regrets. « Quelle perte !» s'écriait une mère. « Frère Marie-Faustien soignait si bien nos enfants !» Le 3 août 1914, avant de rejoindre son régiment, il écrivait ses dernières volontés et remit le pli à un de ses amis très sûr en lui disant « Ignorant ce que me réserve l'avenir, j'ai tout mis en règle, temporelle et spirituelle, et maintenant, à la garde de Dieu, je puis regarder la mort en face. Si je tombe pour la défense de mon pays, faites connaître à mon frère, dont vous trouverez l'adresse sous ce pli, mes derniers désirs. Nous avons reçu la même éducation familiale. Et je sais qu'il ne sera pas surpris de mes dispositions testamentaires et qu'il les exécutera fidèlement. J'aime du fond du cœur ma famille selon la chair, mais j'aime aussi la famille religieuse où j'ai passé les plus fécondes années de ma vie. L'une et l'autre ont également droit à ma reconnaissance. Adieu ou au revoir, selon le bon plaisir du Sacré-Cœur. S'il juge à propos de me ramener sain et sauf, volontiers je continuerai l'œuvre à laquelle j'ai voué mon existence. Si je dois être une victime de la guerre, que sa sainte volonté s'accomplisse. » Les lettres qu'il adressa à plusieurs de ses amis durant son séjour à l'armée révèlent un caractère moral et religieux tout imprégné d'esprit de foi. Il y est souvent question du sacrifice qu'il fait de sa vie à Dieu pour le salut de la patrie, des exercices de piété qu'il accomplit malgré la fatigue et le sommeil, de sa prière favorite, le chapelet, qu'il récite presque sans interruption durant ses longues heures de garde, de la confiance qu'il a eue en la radieuse petite fleur du Carmel, sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Les courts extraits suivants donneront une idée des sentiments de son cœur. Je mettrai à profit vos sages conseils pour m'unir de plus en plus au divin crucifié et imiter sa charité infinie à l'égard du prochain. Je prierai pour ceux qui ne prient pas, pour les âmes du purgatoire, pour les malheureux qui souffrent et ne savent pas sanctifier leurs souffrances. Que d'actions de grâce je dois à Dieu d'avoir été initié à la vie surnaturelle. J'ai eu ce matin le bonheur de recevoir le divin pauvre de la crèche qui ne dédaigne pas de venir parmi nous jusque dans les tranchées. Nous avons passé la nuit de Noël abrités sous quelques branches à travers lesquelles nous apercevions les étoiles du firmament. À minuit, nous avons chanté « Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle » avec une émotion que je ne puis traduire. Nous avons même réveillonné d'une tranche de pain grillée au feu. Après avoir prié son correspondant de transmettre autour de lui ses vœux de bonne année pour tous ceux qui lui sont chers, il termine ainsi : « Que le Sacré-Cœur de Jésus, sa divine mère, sœur Thérèse et la bienheureuse Jeanne d'Arc nous obtiennent bientôt la victoire et le retour si désiré de la France au Dieu qui seul peut la rendre grande et prospère. Brabant, Meuse, 1er janvier 1915. Le 21 février, il écrit « La mort de Monsieur R. que vous m'annoncez m'a vivement peiné. Pauvre cher ami, il pouvait encore rendre tant de services. Je suis porté à envier son sort. C'était une âme droite et bonne, mûre pour le ciel d'où il priera pour nous. Je ne suis pas encore assez prêt pour de si belles choses, et pourtant, qui sait si mon heure n'est pas sur le point de sonner ? Que votre volonté sainte soit faite, ô mon Dieu ! » Quelques jours plus tard, à la suite des dangers courus et des fatigues provoquées par le séjour des tranchées ou les changements de secteur, il écrit « Le bon Dieu nous éprouve, mais il ne nous donne que ce que nous méritons. Que sa volonté s'accomplisse. Je suis heureux de souffrir comme victime d'expiation pour la patrie. Le séjour des tranchées m'est pénible. Je souffre du froid, de l'humidité, je souffre d'être séparé de mes élèves et de mes amis, mais j'offre ces souffrances au Sacré-Cœur pour mon pays et mes frères souffrants. » Terminons par sa dernière lettre, datée de la fin juin, et qui nous arriva quand il était déjà au ciel. « J'ai compris, par votre lettre, que mon retard à vous répondre était pour vous une cause d'inquiétude. Aussi, je m'empresse à vous donner de mes nouvelles. Merci pour toutes les bonnes choses que vous me dites. Merci surtout des ferventes prières que vous adressez au Sacré-Cœur pour tous ceux qui, loin de leur famille aimée, luttent pour la gloire de Dieu et le salut de la France. Je ne doute pas que les prières des âmes droites et innocentes qui vous entourent m'obtiennent du divin Maître une abondance de grâce à tous ceux qui se sont enrôlés sous sa bannière et ne demandent, après cette affreuse guerre, qu'à continuer les pacifiques combats de l'enseignement et à étendre le règne du cœur de Jésus. Depuis que je suis arrivé au front, la mitraille et les balles ont terriblement fauché autour de moi, mais, grâce à Dieu, je n'ai pas été atteint. Tout dernièrement, au moment où j'étais avec quelques camarades au petit poste, une vraie rafale de boulets et de torpilles s'est abattue entre les tranchées et le petit poste, nous couvrant de débris, de bois, de terre ou de pierre. Bien que faiblement abrités, nous n'eûmes qu'un blessé et un tué. Malheureusement, il n'en est pas toujours ainsi. Hélas, au moment où nous parvenaient ces lignes, il était tombé, victime du devoir. Nul doute qu'au moment du trépas, le Sacré-Cœur n'ait secouru son enfant. Sous les coups de mitraille, notre ami avait répété si souvent et avec tant de ferveur « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous à l'heure de notre mort. » Que la céleste mère se sera penchée sur son fidèle serviteur pour recevoir son âme. Et la petite fleur du Carmel n'aura-t-elle pas effeuillé une de ses roses mystiques pour embaumer les derniers moments de celui que nous pleurons ? Son sacrifice, dont il avait, par anticipation, accepté toutes les douleurs, plaide auprès de Dieu la cause de la patrie, car le sang des justes est une semence de victoire.
La terre a donné tant de fruits rassemblés que la terre tout entière t'adore. Quand je crie vers toi, Dieu de justice, réponds-moi. Quand tu m'as... je suivrai cette lumière. Tu es là, je sais, tu es là.